Bienvenue dans Carnet de Noces, le podcast qui va à la rencontre des wedding planners afin de décrypter leur succès. On le sait, le parcours des wedding planners est souvent semé d'embûches. Ici, on se concentre avant tout sur les réussites, le positif, et on s'appuie sur les témoignages de wedding planners triés sur le volet qui ont accepté de nous partager leur savoir-faire. Notre mantra, tout wedding planner peut en apprendre d'une autre. Je suis Benjamin, le fondateur de Planners, la plateforme qui aide les wedding planners à développer leur activité. Aujourd'hui, je reçois Coralie de l'agence My Green Event. Elle est spécialisée dans les mariages éco-responsables et on va voir tout ça avec elle. Bonne écoute. Alors bonjour Coralie et merci d'avoir accepté notre invitation pour discuter au cours de ce podcast. Donc, je vais d'abord te demander de te présenter et de nous dire comment tu en es venue à faire ce joli métier de wedding planner.
Alors, bonjour. Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là et de pouvoir parler de ce joli métier. Donc, je m'appelle Coralie. Je vis à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. J'ai lancé mon activité de wedding planner en 2017. Et depuis, en fait, j'exerce le métier de event planner, mais c'est beaucoup plus des mariages que je fais. Et je me suis spécialisée dans les mariages éco-responsables.
Alors, c'est justement pour cette thématique qu'on t'a invité, le mariage éco-responsable. Et moi, je voulais savoir ce qui t'avait. Est-ce que tu y as pensé dès le début? Est-ce que ça a été un déclic au cours de ta pratique? Qu'est-ce qui t'a fait en fait passer le cap et te positionner vraiment sur les mariages 100% éco-responsables, comme tu dis sur ton site?
Ouais, alors ça a été une évidence en fait, j'avais ce projet de me lancer dans l'organisation d'événements depuis de nombreuses années, et il me manquait ce petit quelque chose en plus, cette valeur ajoutée, et en fait je l'ai trouvé vraiment naturellement parce que ça fait partie de mon mode de vie, dans ma vie quotidienne. Je suis végétarienne depuis de nombreuses années, à la maison on fait beaucoup de nos produits ménagers, on les fait en mode zéro déchet. On fait aussi attention à ce qu'on mange, on a la chance d'avoir un potager. Enfin voilà, et ça s'inscrit vraiment naturellement dans ma démarche. Et puis quand je me suis lancée, j'ai regardé ce qui se faisait déjà et j'ai trouvé en fait que, en tout cas dans ma région, ça n'existait pas encore. Et je me suis dit, allez, banco, on y va quoi.
C'est pour ça que tu mets sur ton site que tu es la première wedding planner spécialisée dans les mariages éco-responsables en PACA.
Tout à fait.
Ouais, c'est bien. C'est surtout que je pense que dans ce métier-là, c'est bien d'avoir un positionnement comme ça marqué. Je pense que c'est dans la mouvance, non? Et tu me contrediras si je me trompe, mais j'imagine qu'il y a de plus en plus de couples qui viennent te voir par rapport à ton positionnement, ou est-ce que c'est encore marginal justement?
Ça a été la grande surprise quand je me suis lancée, parce que comme je n'avais aucun chiffre, quand j'ai fait mon business plan, j'avais vraiment pas grand-chose à montrer. Je ne savais pas comment allaient réagir les futurs mariés, et ça a été vraiment un soulagement quand j'ai eu des premiers appels de mariés qui m'ont dit « on a trouvé votre site, on ne savait pas du tout que ça pouvait se faire, un mariage éco-responsable, on adore l'idée, c'est vraiment ancré dans nos habitudes, et on adore, et on est super content et on voudrait en savoir plus. » Et ça, vraiment, c'est ce que j'adore dans mes mariés, c'est qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde.
Ça veut dire que dans les demandes de contact que tu reçois, tu dirais que tu en as à peu près combien qui sont vraiment liés à ce positionnement-là par rapport aux demandes un peu plus génériques?
J'ai envie de te dire que c'est 99% quasiment.
Ah oui, 99,
Ouais, c'est vraiment, et j'ai cette chance-là d'avoir des clients qui sont vraiment...
Ça ne doit pas être compliqué à closer du coup, non?
C'est ça, après, il y a toujours une question de budget, etc. Mais en tout cas, on échange, on se comprend tout de suite, c'est fluide, et ça c'est du pain béni quoi.
C'est peut-être parce que aussi tu as poussé ce positionnement-là à fond un peu partout sur tes réseaux, sur ton site. Ce qui fait que dans toute ta communication, tu es 100% basé là-dessus, non?
Ouais. Puis je pense que tu vois, quand tu le vis au quotidien et quand ça transpire de ton être, je pense que c'est tout naturel après que voilà, ça c'est simple, c'est ça qui fait aussi beaucoup de choses.
Et donc, tous les couples qui te contactent, ils sont eux aussi un peu comme toi, ils sont dans un mode de vie, entre guillemets, très très bio, très écolo, et c'est ça qui les pousse derrière à organiser un mariage qui leur ressemble, ou c'est plus parce qu'ils ont vu aussi des reportages ou des images ou des choses qui leur donnent envie d'organiser ce genre de mariage?
Je te dirais les deux parce que j'ai de tout au niveau de mes mariés, de mes clients. J'en ai qui sont à l'autre bout du monde, c'est des expats. Donc, du coup, par exemple, j'en avais qui étaient du côté de Oman, près de Dubaï. Et là-bas, au niveau développement durable, je pense qu'ils ne sont pas les plus avancés, on va dire. Mais voilà, quoi, ils avaient envie de se marier en Provence parce que c'était leur lieu d'origine. Ils avaient vraiment envie ben, voilà, de compenser, on va dire, cet aspect de leur vie pour leur mariage. Quand j'ai d'autres clients qui sont issus bah, de Provence, qui du coup ne bougent pas et veulent faire un mariage le plus respectueux possible de l'environnement. Il y a de tout.
Ah ouais, c'est vrai que je pensais pas à ceux qui, ouais, à ceux qui voulaient, entre guillemets, se donner bonne conscience parce qu'ils vivent dans des endroits où c'est très pollué et qui veulent un peu rattraper ça avec leur mariage. Ouais, c'est un peu
Ouais.
comme la prime carbone.
C'est ça.
Il faut compenser. Ouais, c'est cool. Et donc, ouais, j'imagine que ceux qui se marient et qui sont en Provence, il y a aussi cette notion de bah, j'ai envie de faire travailler des prestataires locaux. C'est un peu aussi ce que tu mets en avant sur ton site, j'ai l'impression. Et donc, c'est ça, toi, du coup, pour tes mariages, tu fais aussi en sorte de ne travailler qu'avec des prestataires au niveau local et pas aller chercher des prestataires ou des produits trop loin,
En
même pour les
fait,
menus.
ouais, ben, on a la chance en Provence d'avoir une terre tellement riche de créateurs et même au niveau alimentation, hein, on a des producteurs locaux qui sont merveilleux. On est entouré même pour les fleurs, on peut faire des fleurs régionales du côté du Var. Enfin, il y a tellement de choses possibles en Provence que ça ne me viendrait même pas à l'idée d'aller chercher un prestataire qui soit plus loin que la région PACA, quoi.
Et donc, ce qui veut dire que tu organises tous tes mariages au niveau de la Provence. Tu n'organises pas de mariage plus loin.
Non,
C'est soit des expats qui veulent se marier en Provence, ou soit déjà des gens qui habitent en Provence
c'est
et qui
ça.
veulent se marier sur place.
Ouais, moi je reste très très locale. Je suis née à Aix, je suis toujours à Aix et je suis juste partie 2 ans d'Aix, c'était pour aller à Marseille, donc pas très loin, tu vois.
Comment tu fais alors pour te faire connaître? Tu m'as dit que tu avais des appels. Est-ce qu'il y a encore un devoir d'éducation à faire justement sur les mariages éco-responsables pour faire prendre conscience aux gens que ça existe? Ou est-ce que tu n'as plus du tout ce travail-là à faire et que la majeure partie des contacts que tu reçois sont des contacts entrants qui te trouvent via ton site ou tes réseaux par exemple?
Alors, les personnes qui me contactent par mon site, bah, du coup, découvrent la plupart quand même qu'on peut faire des mariages éco-responsables. Donc, après, ils me posent des questions, ils me disent, mais alors, vraiment dans le détail, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, je leur explique un petit peu. Mais c'est vrai que je trouve que le mariage éco-responsable n'est pas encore assez connu. Et c'est pour ça que, bah, du coup, moi, c'était super sympa de recevoir ton invitation pour en parler sur un podcast parce que on en parle encore trop peu, je trouve. Et il a besoin d'être mis en lumière, ce mariage qui fait du bien à la planète, surtout en ce moment avec tout ce qu'on est en train de vivre. Donc voilà, c'est aussi important d'en parler et de dire que c'est pas forcément un mariage qui va être plus cher ou qui va être juste assis sur des bottes de paille à manger des graines, c'est pas du tout ça. C'est un mariage comme un autre et ça se voit, je pense, du coup, sur les photos que je peux publier sur Instagram ou sur mon site. Limite, on ne se rend pas compte que c'est un mariage qui a été pensé dans une démarche éco-responsable en voyant les photos.
C'est l'objection que tu as d'ailleurs de tes prospects, ceux qui te posent ces questions-là, justement, est-ce qu'ils ont peur que ce soit un mariage soit au rabais ou soit un peu limité par rapport à tout ce qu'on peut faire?
Ouais, certaines fois, surtout au niveau de la réception et du traiteur, on me dit, mais Mais du coup, si on fait un repas, par exemple, végétarien, les gens, nos invités, ils vont avoir faim à la fin du repas. Et après, voilà, c'est à moi de les rassurer et aussi au traiteur de leur montrer qu'en fait, on peut tout à fait faire une réception 100% sans viande et sans poisson et que pour autant, les invités se régaleront et n'auront plus faim à la fin du repas, quoi.
C'est quoi justement un mariage éco-responsable? Parce que moi, quand j'y pense, je me dis déjà au niveau des déchets, j'imagine qu'il y en a moins. Peut-être aussi au niveau des fleurs, au niveau de l'énergie que tu utilises, je ne sais pas. Au-delà de toutes ces choses un peu bateau, je pense, qui viendra dans la tête de tout le monde, il y a peut-être des choses auxquelles on ne pense pas et qui peuvent être intégrées dans un mariage éco-responsable.
Ouais, en fait, si tu veux un mariage éco-responsable, c'est on prend exactement la même base qu'un mariage classique et on essaye de trouver des alternatives. Donc, par exemple, ça va être au moment de choisir le lieu de réception. Bah voilà, on va essayer déjà de trouver un lieu qui n'est pas trop loin de la mairie s'il y a un mariage civil pour éviter de générer énormément de gaz à effet de serre pour le déplacement de 150 personnes dans 90 voitures. Tu vois, voilà, c'est des petites choses comme ça. On peut aussi aller plus loin en prenant un lieu forcément, qui fait attention à ses déchets, qui a par exemple un domaine viticole bio, qui ne traite pas. Ça c'est pour le lieu de réception. Après, tu as le traiteur. Voilà, un traiteur qui travaille avec des producteurs locaux, qui peut faire un menu 100% végétarien sans qu'on manque à la fin du repas, qui va faire aussi attention à la vaisselle qu'il utilise, qu'il ne soit pas voilà, de la vaisselle jetable en plastique, éviter tout, surtout pour l'apéritif, tous les contenants en plastique à usage unique, ça. C'est une aberration. Ça va passer aussi ensuite par les fleurs, prendre des fleurs déjà de saison, c'est la base. Ensuite, local si possible, peut-être prendre plus des fleurs séchées qu'on va pouvoir réutiliser ensuite en décoration chez soi. Enfin, ça passe vraiment par en fait tous les postes d'un mariage classique. Tous les postes peuvent être aménagés, pensés différemment pour voilà, éviter. De faire trop de mal à la planète.
Est-ce que tu as eu du coup des fois des demandes un peu folles par rapport à ça ou des choses que t'as pas pu faire parce que c'était trop ambitieux par exemple ou parce que les traiteurs ou parce que certains prestataires sont pas encore prêts aussi parce qu'il y a ça aussi je pense
Oui.
il y a le fait ouais, de penser peut-être à des alternatives, mais derrière, tu dois te heurter parfois, j'imagine, enfin, prestataires, à ceux qui vont réaliser la prestation et qui peuvent te dire parfois, non, moi je peux pas, ou non, j'y ai pas pensé. Ça arrive encore beaucoup, ça, ce genre de situation.
Non, ça arrive pas souvent parce que quand même maintenant je commence à bien connaître les prestataires avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Je connais un peu leurs limites et j'arrive à anticiper auprès des mariés des demandes qui seraient un peu trop extravagantes. Mais je m'adapte aussi à la demande des mariés. C'est le plus beau jour de leur vie et je me vois pas du tout leur imposer de changer leur plan d'action ou de changer leurs envies parce que ce n'est pas éco-responsable. Il y a aussi voilà, cette balance qu'il faut garder en tête, c'est que c'est le plus beau jour de leur vie, il faut qu'ils soient à l'aise avec leur journée, il faut que ça leur ressemble, et d'imposer quelque chose qui n'est pas eux, moi je me sens pas du tout à l'aise avec ça. Donc on joue sur cette balance-là. La plupart du temps, ça se passe très très bien. Mais voilà, des fois, plutôt que de louer une voiture électrique pour venir à l'église, les mariés ont envie de prendre la vieille voiture de leurs grands-parents. Et dans ce cas-là, c'est ça qui passe avant tout.
Ouais, je comprends. Et au niveau de justement de ces demandes un petit peu extravagantes, il y en a qui me viennent en tête?
Écoute, le tout premier mariage que j'ai fait, c'était un mariage qui était dans un lieu privé, qui appartenait à la famille du marié, qui n'était du coup pas du tout pensé pour recevoir 80 personnes. C'était une vieille bâtisse avec un système électrique qui était, enfin, à peine on allumait la lumière, ça s'éteignait, donc c'était super compliqué. Il a fallu penser, voilà, pour le traiteur et pour le DJ, pour la réception, à faire venir de l'électricité et suffisamment d'électricité pour maintenir la réception comme il fallait. Et c'est vrai que le groupe électrogène, on s'est dit, ouais, mais ça fait du bruit, c'est pas forcément ce qu'on attendait. On a essayé de trouver une solution, ça a été très très compliqué et au final on a réussi, mais ça nous a pris énormément de temps pour ne pas passer par un groupe électrogène et en fait augmenter le débit auprès d'EDF qui nous a fait un compteur de chantier, enfin tout un truc. Ça a été hyper intense, je suis maintenant très calée en triphasé, etc. Donc c'est voilà, mais
c'est l'avantage de ce métier, c'est qu'on en apprend aussi, je pense.
C'est ça, voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est ça qui est en fait, chaque mariage est différent. On apprend constamment et il faut aussi constamment se remettre un petit peu voilà sur les rails et aller plus loin dans plein de choses. Et c'est ça qui est c'est passionnant.
Moi, j'aimerais aussi qu'on revienne sur ton parcours, parce que j'ai vu quelque chose d'intéressant sur ton site aussi, c'est ouais. Que tu venais du domaine du web marketing.
Oui.
Alors, c'est marrant parce que moi d'ailleurs, mon autre activité d'ailleurs, c'est du web marketing aussi, puisque je... Bon, toi, on va y venir, mais toi, tu es plus du domaine du SEO, donc le référencement, hein, c'est ça, des sites sur Google. Moi, je travaille avec Google aussi, mais au niveau de la publicité, donc c'est un peu
ouais,
pareil.
C'est complémentaire. Hein, je connais bien le domaine.
Voilà, ouais, c'est tout à fait complémentaire. J'ai vu que tu avais fait 6 ans en tant que chargé SEO dans une agence, hein, je crois.
Ouais, c'était une start-up, c'était une petite start-up marseillaise.
Et justement, je me disais que ça avait bien dû t'aider, non, au lancement de ton activité, de te rendre visible. Et puis justement, hein, c'était ma question, c'était de savoir si justement tu avais utilisé toutes tes compétences en SEO pour te faire connaître en fait dans tes débuts.
Et ben, tu sais, on dit que c'est les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Donc, en fait, maintenant, c'est plus que 6 ans, hein, parce que je n'ai pas forcément mis à jour le site depuis un moment. Mais j'ai fait des études en communication et en marketing et réseau de communication. Et j'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler dans une start-up marseillaise qui m'a énormément appris dans le domaine du e-commerce, du e-tourisme plus précisément. Et j'y suis restée près de 7 ans en fait. J'ai appris toutes les bases du référencement naturel, donc comment bien référencer un site sur internet, et, bon, la plupart du temps Google, hein, on va pas se le cacher. Et ensuite, du coup, c'est vrai que ça m'a permis d'avoir les bases pour, une fois que j'avais mon site internet, bien le référencer. Mais c'est vrai que j'y passe pas non plus plus de temps que ça, parce qu'en fait, je fais le minimum et je pourrais avoir tellement d'autres choses à... C'est du temps, oui.
En fait, ce qui m'a un peu sauté aux yeux aussi, j'ai vu que tu avais pas mal de parutions presse hein, sur ton site. J'ai aussi vu que tu étais passé dans un reportage sur M6, je crois que tu as eu aussi un article sur Madame Le Figaro. Est-ce que aussi ça joue? Est-ce qu'on n'est pas dans... avec le mariage éco-responsable, dans des mariages qui deviennent entre guillemets un peu tendance et toi, étant entre guillemets parmi les seuls ou parmi les pionnières dans ce domaine-là, est-ce que ça te permet pas aussi d'avoir comme ça des coups de projecteur hein, de temps en temps par les grands journaux, magazines?
Si, c'est vrai que ça a été aussi une grande surprise quand je me suis lancée, c'est de voir l'engouement que ça avait auprès de la presse. Le reportage sur M6, j'ai eu la chance de passer sur M6 au JT du 12-45 parce que j'ai participé à un salon du mariage qui était un salon qui était dédié au mariage éco-responsable dans ma région. Et ça a été un coup de projecteur immense pour tous les acteurs de ce milieu-là, hein, du domaine du mariage éco-responsable. Et après, auprès de Madame Figaro, pareil, c'est sûr que quand on t'appelle et quand on te dit qu'on va faire un article sur toi, sur ton travail, c'est hyper gratifiant. Et des fois, t'as forcément un peu le syndrome de l'imposteur. Tu te demandes, mais en fait, pourquoi ils m'ont choisi? Et après, c'est...
Tu dois bien te référencer pour le coup.
Si tu
Du coup, tu n'as rien fait pour ça. Enfin, c'est à chaque fois, c'est les...
Non, c'est le bouche à oreille, je pense. Tu sais, ça fait aussi beaucoup. Hein. Il n'y a pas que le référencement.
Et t'as vu des retombées après, par exemple, ouais, le reportage sur M6, par exemple, est-ce que t'as eu des demandes suite à ce genre de passage dans la presse et dans les médias?
J'ai vu, j'ai suivi un petit peu mes statistiques sur mon site internet. J'ai vu effectivement qu'il y avait eu un pic de visites, mais rien ensuite qui a transformé en demande de contact ou d'information. Après, c'est parce que c'est très national, hein, le JT d'M6 au 12h45 et Madame Le Figaro, c'est pas forcément un niveau local, vu que moi je suis très Provence. Voilà, c'est pas. Mais c'est toujours très
après,
bon à
c'est bien,
prendre.
Parce que ça doit participer quand même au fait que ça rentre dans les mœurs. Et puis des gens qui ont sûrement vu ce reportage maintenant sont peut-être amenés à te recontacter plus tard quand ils se seront décidés. Après, c'est vrai que le mariage...
Ah oui,
tu ne te décides pas de te marier après avoir vu un reportage, ça c'est sûr.
Oui, ce n'est pas l'achat compulsif que tu vas faire quand tu vois une pub pour des chaussures. Quoi.
C'est ça. Maintenant, je voulais qu'on parle un petit peu de l'actualité. Hein. On est début décembre au moment où on enregistre cet épisode en plein Covid encore.
Et plein confinement encore.
Plein confinement, c'est vrai. Est-ce que toi, tu as fait évoluer tes services ou autres? Comment est-ce que tu vis la période actuelle?
Alors, je ne vais pas te le cacher que c'est une période qui est très, très compliquée pour le domaine de l'événementiel. Hein. Tu dois un petit peu le savoir, je pense. Suite au premier confinement, ça a été, il y a eu la première partie du confinement, en fait, comme on ne savait pas trop ce que c'était ce Covid-19, on ne savait pas où on allait. On attendait un peu en fait hein, de savoir ce que ça allait donner, donc il s'est pas passé grand chose. Et puis quand on a vu que ça commençait à persister, que le confinement était encore une fois renouvelé, là les mariés, et c'est tout à fait normal, je les comprends, ils ont un peu commencé à se poser des questions et à se dire bon, qu'est-ce qu'on fait avec notre mariage de 2020, est-ce qu'on annule, est-ce qu'on décale, et ça a été une période qui a été dense, très très dense, parce que moi 2020 ça devait être la meilleure année depuis mon lancement, donc quand j'ai vu que le vent tournait, ça m'a un peu attristée. Et après j'ai eu énormément de travail parce qu'il a fallu décaler toutes les dates, essayer de trouver les meilleures solutions pour les mariés, pour pas que voilà, que un mariage d'été se fasse en hiver. C'est tellement déceptif pour eux, ils se projettent alors en Provence c'est un an et demi voire 2 ans avant. Donc, t'imagines à quel point, émotionnellement, c'est très, très compliqué. Donc, on a travaillé très dur avec tous les prestataires qui m'ont accompagnée et ils ont été vraiment tous géniaux. Et ça, c'est super parce que c'était compliqué. Et puis, là, on est arrivé à un deuxième confinement. Et là, en fait, on repart dans cette même morosité de est-ce qu'on décale, est-ce qu'on annule, sachant que moi sur la période de la saison 2020, je n'ai fait qu'un seul mariage. J'ai eu la chance déjà d'en faire un, c'est déjà pas mal, parce que je sais que j'ai des consoeurs qui n'en ont fait aucun. Moi j'en ai fait un en septembre, on est vraiment passé entre les gouttes, entre le moment où il n'y avait pas encore le couvre-feu et le moment où on pouvait faire des réceptions à plus de 200 personnes, mais c'est compliqué.
Et donc là, t'es... Bon, parce qu'on va quand même, je pense, on va en voir le bout. Et là, pour 2021, ouais, y a des mariages qui, du coup, devaient être sur 2020 et qui sont décalés en 2021. Comment est ton planning, là?
Alors, 2021, ça va s'annoncer une année très particulière parce qu'en fait, on va devoir, je pense, parler au nom de tous les prestataires, travailler, faire des mariages à la fois en semaine et en week-end. Moi, sur 2021, l'année prochaine, j'ai des mariages le jeudi, le vendredi, le samedi et même le dimanche. Alors que sur une année...
La même semaine ou
quand même sur j'ai quand même essayé de les dissocier, mais c'est pour te dire à quel point je pense que l'année 2021 va être assez intense et voire épuisante pour certains prestataires qui ne vont pas arrêter. Parce que quand tu travailles à la fois la semaine et le week-end, il te faut quand même des jours de repos. On est humain quand même. Et ça va être, ouais, ça va être très intense. Après, on a la chance en Provence d'avoir une saison qui est assez étendue. Ça va de avril-mai à octobre. Mais déjà, là, par exemple, tu vois, on est en décembre et j'ai des mariés du mois de mai qui commencent à se poser des questions sur leur mariage, sur la tenue de leur mariage. Donc, moi, je pense que on n'est pas encore totalement sorti. Il va se passer encore beaucoup de choses, surtout avec le vaccin, etc. Mais on n'est pas encore totalement, voilà, il n'y a pas encore le soulagement et se dire, ça y est, c'est fini, c'est derrière nous. En tout cas, le domaine de l'événementiel, un peu comme les restaurateurs, hein, on est un peu toujours sur la sellette à attendre des annonces du gouvernement.
Après, c'est sûr qu'il y aura aussi un effet de rattrapage, hein, et tu le dis, tous ceux qui ont pas qu'ont une année, hein, presque blanche là cette année et qui vont se voir, c'est vrai, obligés de bosser deux voire trois fois plus l'année prochaine.
En fait, ouais, on va faire deux saisons en une, et en espérant que les prestataires puissent passer l'hiver, parce que voilà, on prend des acomptes généralement assez longtemps à l'avance, et quand on n'a pas le solde des prestations de la saison 2020 pour passer l'hiver, ça c'est compliqué pour une bonne partie des prestataires de l'événementiel, hein.
Et pour les lieux, du coup, parce que toi, alors si tu veux vraiment faire des mariages au niveau local, j'imagine que t'as pas non plus pléthore. Alors si, tu dois en avoir quand même un certain nombre, mais tu vas pas trop trouver à court de lieux si justement tu te restreins trop en termes de distance.
Alors, enfin, vraiment, en Provence, il y a des lieux, mais partout, en fait, des plus petits qui sont très intimistes parce que ça va être dans un mât provençal, par exemple, et où tu vas pouvoir recevoir une quarantaine de personnes. Mais après, tu as des châteaux qui sont là, tu peux en recevoir 200, 300 hyper facilement. Il y a une variété de lieux et une richesse de lieux qui fait que pour l'instant, je me suis jamais retrouvée à ne pas trouver de lieu pour mes mariés. Après, là où ça bloque, surtout en Provence, c'est au niveau du budget. Au niveau du budget, quand tu trouves des lieux où tu as quasiment le budget d'un mariage pour juste la location du week-end, tu fais le tri assez rapidement aussi dans les clients en faisant ça.
Ah oui, t'as remarqué que c'est une région de France où les lieux sont plus chers qu'ailleurs, selon toi?
Alors, je pense que c'est à peu près comme la région parisienne au niveau des tarifs pour les lieux. Mais oui, et en plus, chaque année, c'est un peu pareil pour tous les prestataires, hein, mais les prix augmentent. Et en plus, ben oui, forcément, là, 2021, c'est très compliqué de trouver un lieu qui est encore disponible. Encore moins si tu veux absolument te marier un samedi, parce qu'avec tous les reports. Ça n'existe quasiment plus en Provence, en tout cas. Donc, il y a cette double complexité entre le budget et la disponibilité. Et même pour 2022, il y a déjà des mariages qui sont reportés à 2022, hein, parce qu'il n'y avait plus de dispo pour 2021.
Et la question justement à 5 000 euros, est-ce que c'est plus cher alors ou pas d'organiser un mariage éco-responsable?
Non, parce que en fait, on se rend compte que c'est pas forcément plus cher parce que tu fais des économies en fait sur plein de petites choses que tu ne fais pas ailleurs. Et puis il y a aussi l'avantage de passer par une wedding planner ou un wedding planner, c'est que on a des prix en passant par certains de nos partenaires, ce qui fait que ben voilà, tu réduis aussi considérablement l'enveloppe budgétaire d'un mariage en passant par un professionnel.
C'est encore, je pense, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est le fait qu'ils vont faire des économies
C'est ça.
assez souvent, même en passant par un professionnel du mariage, plutôt qu'à organiser eux-mêmes, quoi.
Oui, parce qu'en fait, sur le papier, c'est sûr que des honoraires de wedding planner, ça peut faire peur. On se dit, waouh, on ne l'avait pas prévu ça. Mais en fait, quand on fait le ratio du temps, déjà, que ça te fait gagner de l'argent, parce que bah, voilà, d'un côté, tu as 10%, de l'autre côté, tu as plus d'heures pour le traiteur et pour son équipe. Et c'est aussi surtout la sérénité ensuite du jour J, où tu n'as rien à faire que de profiter de tes proches. T'as pas à gérer l'installation de la serviette et du porte-nom et de tes 150 invités. Voilà, et ça, c'est, ça n'a pas de prix. C'est vraiment cette valeur-là, quoi.
Si là, demain, tu devais te lancer avec tes connaissances, mais sans ton réseau et sans tes prestataires, sans ton site, sans ton réseau, et que tu te lançais demain, ouais, avec par exemple 5 000 euros en poche, à quoi ressembleraient tes premiers mois d'activité? Qu'est-ce que tu ferais vraiment comme première action pour te lancer le plus rapidement possible?
Une bonne question. Je pense que je referais exactement la même chose que ce que j'ai fait. C'est-à-dire, en fait, quand tu te lances dans le monde du mariage, il te faut enfin, surtout quand tu fais un métier qui est impalpable, où tu n'as pas de produit à montrer et à vendre, si tu vends un service, il te faut des photos, des images. Et ce que j'ai fait quand je me suis lancée en 2017, c'est de faire un shooting d'inspiration. Donc en fait, tu prends des modèles, un modèle homme et un modèle femme la plupart du temps, et tu fais un faux mariage, le condensé d'un mariage sur une journée, où tu fais des photos, ben voilà, de tout, du buffet, du gâteau, de la cérémonie laïque, s'il y a une cérémonie laïque, de la mariée en robe, des préparatifs, enfin tu fais vraiment tout comme un vrai mariage pour avoir des visuels à ensuite publier, ben voilà, sur les réseaux sociaux ou sur ton site. Mais je trouve que c'est hyper intéressant, en tout cas quand on se lance, de faire ça, parce que tu te rends compte que tu fais vraiment tout le travail que tu vas devoir faire ensuite pour un mariage, parce qu'il faut que tu trouves des partenaires, il faut que tu trouves un lieu de réception pour t'accueillir, et ensuite le jour J, c'est hyper intense, parce que tu, voilà, t'as une équipe de 10-15 prestataires qui ont besoin eux aussi de ces photos pour se faire connaître, et il faut pas qu'ils soient déçus, un peu comme t'es mariée, t'as pas le droit de les décevoir parce que c'est le plus beau jour de leur vie. Bah là, ces prestataires, t'as envie qu'ils soient contents des photos, et t'as envie qu'ils les publient forcément en te mentionnant, et c'est très très riche d'expérience. Et moi, c'est aussi ce que je recommande quand j'ai des apprentis wedding planners qui m'appellent et qui me posent des questions un peu sur le métier. C'est ce que je leur conseille de faire, c'est vraiment avant de vous lancer, avant de penser à créer une société, à l'immatriculation, à des choses qui sont pas forcément hyper hyper glamour, c'est de se lancer dans l'organisation, voilà, d'un véritable projet, et ensuite de le publier et de voir un peu les retours ensuite des prestataires sur ce projet, quoi.
Et puis je pense que c'est aussi la manière de voir si tu es vraiment fait ou faite pour ça, de faire, ouais, un mariage comme ça, même si c'est pour de faux entre guillemets, mais il y a tout le travail en amont qui doit être assez similaire quelque part.
C'est après, ça. Et puis même le jour J, t'as aussi les petits couacs, hein, que tu retrouves sur un vrai mariage, hein. C'est par exemple, bah, t'as la maquilleuse qui est en retard parce qu'elle a un problème de voiture. Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Et là, c'est exactement comme dans la vraie vie, quand c'est un mariage, tu dois trouver des solutions, tu dois t'adapter sans cesse. Et c'est, voilà, c'est vraiment, moi je le recommande à 1000% en tout cas quand on débute.
Et combien faut compter à peu près pour un shooting d'inspiration?
Alors c'est ça aussi l'avantage. C'est ça aussi l'avantage du shooting d'inspiration, c'est que normalement, si tu te débrouilles bien, tu dois amener à ce que chaque prestataire, en fait, travaille bénévolement, on va dire, parce qu'ils vont tous avoir un intérêt. On va tous former une sorte d'équipe solidaire. Ouais, c'est ça. On est vraiment une équipe solidaire. On va tous donner. Alors, les wedding planners, on donne du temps parce que c'est de l'organisation. Mais bah, par exemple, le photographe, c'est pareil. C'est du temps qui va mettre à ensuite traiter les photos et le jour J à faire les photos. Le traiteur, bah, il va te fournir une pièce montée à photographier. Et donc, ensuite, voilà, tu dois le mettre en avant. Pareil pour les fleuristes, hein, les décorateurs. Ils viennent avec tout leur matériel, ils mettent tout en place, ils repartent ensuite avec tout leur matériel. Mais les fleurs, par exemple, les fleurs sur un shooting d'inspiration, moi je sais que bien souvent on me dit on va les jeter parce que elles ont été utiles pour les photos, mais là je peux plus les revendre ou machin. Moi ça me met hors de moi parce que je trouve que c'est les fleurs, c'est tellement beau qu'on peut pas les mettre à la poubelle quand elles ont eu 2-3 heures de vie. Et dans le mariage éco-responsable, c'est aussi, voilà, trouver des solutions pour tout ce gâchis, entre guillemets. C'est-à-dire que les fleurs, même après un mariage, eh ben, au lieu de les jeter parce qu'elles n'auront plus d'utilisation, on peut soit les donner à nos proches, aux invités, par exemple. On peut reformer des mini-bouquets et les donner ensuite à un peu tout le monde. On peut aussi les donner à des associations, à des hôpitaux, à des EHPAD, ou encore en faire cadeau aux prestataires parce qu'ils ont fait un super boulot. Enfin, y a énormément de choses qu'on peut faire plutôt que de jeter. Voilà, c'était la petite aparté.
Non, mais tu fais bien de préciser, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas. Hein, je pense qu'on n'y pense pas à tous les déchets, c'est vrai, à la fin d'un mariage. Et puis moi, le premier, hein, pour en avoir fait un en tant qu'invité il n'y a pas très longtemps, à la fin de la soirée. Et puis je pense que pour les mariés, c'est un peu pareil. Tu sors de ta soirée, tu n'as qu'une seule envie, c'est d'aller te coucher, de profiter. Et puis le lendemain, tu as la tête ailleurs. Et puis tu penses plus, c'est vrai, à ce qu'ont pu faire les différents prestataires de tout ce qui a été utilisé pendant le mariage, en fait.
Et oui.
Et je pense que c'est le genre de choses, c'est vrai, qu'il faut penser en amont du mariage plutôt que du jour J et de se retrouver avec et de se dire « qu'est-ce qu'on en fait maintenant ?»
Mais ouais,
c'est des très bonnes idées, c'est des très bonnes idées. Moi, c'est vrai que je suis fan de ce principe-là parce que c'est vrai que chacun est gagné au final. Si en plus tu trouves des prestataires qui ont eux aussi envie de se faire connaître parce que peut-être que le prestataire qui a implanté... dans ton secteur depuis très longtemps, qui a déjà beaucoup de clientèle, il a peut-être moins besoin et ce serait peut-être un peu plus compliqué à convaincre, quoique, hein, après je dis ça.
Pas forcément, parce que regarde, avec la période qu'on vit en ce moment, le peu de mariages qu'on a fait cette saison, on a quasiment tous besoin de communiquer sur des mariages, parce que quand tu n'en as fait qu'un, ou même quand tu n'en as fait aucun, tu as besoin de montrer des nouvelles choses sans cesse. Et ces shootings d'inspiration-là, en ce moment, ils aident un peu tout le monde. C'est aussi ça.
Ouais, c'est ça. Et puis aussi, ça peut être quelque chose aussi que tu peux faire à chaque saison ou chaque année, histoire même toi de renouveler un petit peu ta proposition de décoration, etc.
Ouais.
Ton environnement, ton ambiance.
Tu peux choisir le thème que tu veux faire. En fait, le shooting d'inspiration, c'est le mariage idéal parce qu'on ne parle pas de budget la plupart du temps. Tu fais vraiment le thème que tu veux avec les prestataires que tu veux. C'est hyper intense pour ça aussi parce que c'est le truc waouh, quoi.
Donc, ce serait le conseil numéro un. C'est même avant le site, avant de lancer ta boîte, même, tu as dit, faire un shooting d'inspiration histoire de te...
De tester un peu le métier, tout ce que ça implique, de voir aussi qu'un shooting d'inspiration, tu l'organises pas en une semaine. Hein. C'est beaucoup plus long parce que comme pour un mariage, tu dois trouver la date parfaite pour tous tes prestataires. Donc, c'est des allers-retours sur « oui, mais toi, t'es disponible quand ?»« Ah, mais toi, t'es le matin et moi, c'est l'après-midi. Donc, attends, on va essayer de voir. » Enfin, c'est le truc à faire avant tout, selon moi.
Bon, j'espère que toutes les apprenties wedding planner ont bien noté. Maintenant, ce que je voulais te demander, c'est s'il y a un outil indispensable pour toi au quotidien, ça peut être une application sur ton smartphone, un outil que tu utilises et qui te fait soit gagner du temps, soit qui te rend plus productive. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu utilises au quotidien dans ton activité et dont tu ne pourrais pas te passer ?
Alors moi je suis sans cesse en quête d'outils comme ça. J'adore en découvrir des nouveaux, en tester et pour l'instant je n'ai pas encore trouvé ma perle rare, tu vois, qui comble tous mes désirs.
Qu'est-ce que tu as testé pour l'instant ?
Alors pendant un long moment j'étais sur Trello et je sais que tu en avais parlé lors d'un autre podcast.
Exactement, ouais, t'es pas la seule.
Au final c'était l'aspect carte que tu déplaces qui moi, ne m'allait pas. Après, en ce moment, j'utilise FreedCamp, qui est plus
FreedCamp.
Sous une forme... Ouais, qui est plus sous une forme
Comment
de...
Comment est-ce que tu écris ça ? Bon, même si on mettra les notes dans les... on mettra les liens dans les notes de l'épisode, mais si tu pouvais préciser un petit peu ce que c'est.
FR2EDCAMP, Camp. Et c'est un peu une... Tu te crées des projets, en fait, et dans tes projets, tu as une to-do list que tu peux cocher, sur lequel tu peux te mettre des dates. Et la différence, voilà, avec Trello, c'est que c'est pas sous forme de carte, c'est vraiment sous forme de to-do. Et moi, c'est ce que je préfère quand tu avances sur un projet, c'est de cocher que ça, tu l'as fait, et de voir ensuite ce qui te reste à faire. Tu peux ensuite filtrer tes tâches selon les priorités, etc. Et c'est super intéressant. Et après, bah, j'utilise beaucoup Canva pour tout ce qui est visuel.
Oui, Canva, c'est pour tes visuels, d'accord.
Ouais, la formule gratuite, elle suffit amplement, en plus, en tout cas pour moi. C'est une mine qui est super, parce que t'as plein de choses qui sont déjà préconçues. Tu mets une photo, tu changes, c'est un peu le Photoshop du débutant, mais qui est hyper complet. Après, j'ai toujours des fichiers partagés Excel. Ça, je n'arrive pas à m'en séparer. C'est la base pour moi, les fichiers, surtout Google Drive. Voilà, tu envoies un lien, c'est partagé, c'est complété. Ça va très, très vite. Et après,
j'ai... Et donc, toi, tu communiques avec tes mariés.
Ouais,
tu communiques avec tes mariés, donc c'est WhatsApp. Mais tout ce qui est fichiers de suivi, tout ça, tu les partages avec avec tes fichiers Drive ou l'outil dont tu m'as parlé, la Fleetcamp,
c'est vraiment que pour moi. Là,
c'est que pour toi, d'accord.
Ouais. Mais après, avec les mariés, oui, le mail reste encore et toujours le mail, mais WhatsApp, c'est vrai que ça nous aide beaucoup, surtout quand ils sont à l'étranger, les mariés. Moi, je me fais un groupe où on est, on est trois dessus et on parle, à la fin, c'est un peu comme la discussion que tu peux avoir avec des copains. Hein, on n'a pas d'heure pour s'échanger des idées, des suggestions, des réponses, etc. Et ça nous fait gagner énormément de temps.
Et je t'ai coupé, tu m'avais parlé d'un autre outil.
Pour la facturation et les devis, tu sais, cette chose qui n'est pas forcément hyper sympathique à faire. Moi, j'ai trouvé un outil qui est vraiment qui a été fait par des freelances et qui s'adresse aux freelances. Ça s'appelle Freebie, Freebe. Et c'est vraiment super parce qu'en plus, ça te permet de savoir combien tu dois en cotisation, si c'est mensuellement ou trimestriellement. Tu peux déclarer directement depuis l'outil tes cotisations URSSAF. C'est hyper simple visuellement. Hein, tu n'as pas 50 000 boutons. Ça te permet de faire tes relances très facilement, de voir quand est-ce qu'il te manque une facture. Enfin, voilà, c'est... Depuis que j'ai trouvé ça, moi, je suis à fond. Ça devient un plaisir de faire des
relances. Ça devient plaisant, c'est ça.
Ben, voilà.
C'est ça. Ça devient plaisant de faire des relances et des devis. Non, mais c'est vrai que la facturation sur Excel ou autre, ça va un temps, mais dès que tu commences à te structurer et avoir une activité qui commence à être pérenne, c'est vrai qu'il faut aussi s'équiper de ce genre d'outils parce que.
Avec la facturation et les devis aussi, t'as pas envie de faire des erreurs à oublier de mettre une mention légale à la fin de ton pied de page parce que tu vois, enfin c'est très rapidement, moi en fait je suis passée sur ce genre d'outil là parce que justement j'avais pas envie que ça me retourne dessus parce que voilà, j'avais oublié un truc ou j'avais mal mentionné quelque chose et j'ai préféré prendre un outil comme ça très rapidement pour tout cadrer et être sûre que limiter les risques, on va dire.
Non, bah c'est top. Et on mettra un lien vers tous les outils que tu as mentionnés.
Mais après, je pense que voilà, on est tous différents et il faut aussi trouver chaussures à son pied.
Ah bah je pense qu'il faut tester. Hein.
Ouais, c'est ça. En fait, il ne faut pas hésiter. Surtout que la plupart de ces sites-là, ils ont des versions gratuites. Oui, on va devoir mettre son mail, mais au moins comme ça, après, on teste vraiment. Parce que tu ne peux pas t'en rendre compte avant d'avoir mis tes propres projets, etc.
Dans la gestion de projet, c'est vrai qu'il y a des outils qui vont et qui viennent et puis qui peuvent convenir à certaines personnes. Moi, je suis un peu comme toi d'ailleurs par rapport à Trello. Je préfère quand c'est des to-do, quand c'est des cases à cocher. Et puis c'est vrai que ça a été prouvé d'ailleurs que l'effet psychologique que ça fait de pouvoir soit rayer ou soit cocher une case, c'est vrai que ça crée un petit shoot de dopamine que tu n'as pas forcément quand tu déplaces une carte.
Et ouais, ça te motive à faire la suite, quoi.
C'est ça. Quels sont tes prochains objectifs et quels sont tes projets à 1, 2 ans, 3 ans pour ton entreprise?
Alors, je vais croiser déjà très très fort les doigts pour qu'on puisse faire une saison 2021 à peu près normale. J'espère vraiment de tout cœur qu'on va pouvoir reprendre les mariages. Alors, même si ce ne sera pas comme avant, ça, je pense que c'est sûr. Ils vont devoir évoluer, ces mariages de l'année 2021, mais de pouvoir retourner sur le chemin du travail parce que, moi, pour mon cas, c'est vraiment une passion. Et cette année, de ne pas avoir fait de coordination du jour J ou d'en avoir fait qu'une, ça m'a frustrée. Il me manquait vraiment cette excitation du jour J qui fait que j'adore ce que je fais, que je ne regarde pas ma montre quand je suis sur un mariage, que je travaille pendant 12 heures d'affilée, limite des fois sans manger. C'est cet état d'esprit du jour J qui me manque énormément. Donc déjà, si 2021, on peut revenir comme c'était avant, moi, ça me va. Et après, écoute, j'ai envie de développer toujours, faire connaître le mariage éco-responsable, continuer et peut-être même susciter des vocations. En début d'année 2021, je vais avoir une stagiaire qui va venir, qui va me suivre. Et je trouve ça hyper intéressant de partager avec elle déjà le monde de l'entrepreneur, de l'entrepreneuriat, ce que ça implique, et puis ensuite partager avec elle le domaine du mariage, pareil, parce que souvent on a l'image que être wedding planner c'est un métier facile, parce que tu as organisé peut-être le mariage de ta copine et ça s'est très bien passé, mais en fait c'est un métier qui demande énormément d'investissement de soi. Parce que moi, des fois, le soir, mes mariés, ils sont disponibles qu'à 21h30 ou 22h, ou même des fois plus tard, et il faut se rendre disponible pour eux à cette heure-là, parce que forcément, ils terminent le travail, ils ont couché les enfants, et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut parler de leur mariage. Donc, il faut aussi se rendre disponible pour eux, et c'est aussi faire une croix sur quasiment tous les week-ends de ta saison d'été, où tu ne pourras pas passer des barbecues avec tes copains, parce que tu seras sur des mariages. Donc voilà, il y a le côté paillettes et glam, tout ce que tu veux, qui est hyper sympathique. Mais à côté de ça, c'est quand même des heures de travail qui sont intenses. Et beaucoup n'ont pas cette vision-là quand ils se lancent. Et c'est pour ça que généralement, ils restent pas très longtemps sur le marché, quoi.
Tu fais bien de préciser, parce que c'est aussi l'objectif de ce podcast et de ces conversations qu'on a, c'est de faire prendre conscience aux gens que non seulement c'est un métier, mais c'est aussi c'est la gestion d'entreprise. Donc il faut non seulement bien faire son métier, mais il faut aussi la faire perdurer en trouvant les moyens d'aller chercher des clients, d'aller les convaincre de travailler avec soi, etc. Et ça aussi, c'est une part du métier que je pense parfois on peut avoir tendance à oublier.
Parce que
c'est vrai que le côté un peu... Exactement, trouver le bon prix, aller trouver les bons clients, ne pas passer trop d'heures sur un mariage aussi, parce que tu l'as dit, c'est beaucoup d'heures un mariage, mais il faut pas non plus se tuer à la tâche, parce que derrière, on a une entreprise aussi à faire tourner, donc c'est toutes ces choses-là, je pense, qui demandent aussi à être un peu plus partagées, et c'est bien, parce que à force d'avoir des conversations comme ça avec toi, avec d'autres wedding planners, on va arriver à aussi... Je pense, et c'est aussi l'objectif aussi de ce podcast, c'est de démocratiser le métier, en faire un vrai métier, et pour que tous ceux et celles qui se lancent là aient les bonnes cartes en main pour non seulement se plaire dans ce métier-là, mais aussi faire en sorte de faire perdurer leur activité.
Mais moi, c'est des moments que j'adore, tu vois. Assez souvent, j'ai des personnes qui m'appellent et qui me posent plein de questions sur le métier wedding planner, et c'est avec grand plaisir que je leur réponds, mais je ne me voile pas la face et je ne veux pas non plus qu'ils se voilent la face, c'est-à-dire que je leur dis tout ce qu'on s'est dit avant, que c'est un métier qui est pas forcément hyper facile. Et bien souvent, elles me remercient des échanges qu'on a ensemble, parce qu'elles ne se rendaient pas compte de tout ça. Et c'est pareil, au début, quand tu te lances en tant que wedding planner, tu ne vas pas être rentable la première année. Il te faut quand même...
C'est toujours compliqué, peu importe l'entreprise, c'est vrai que
Et encore, je trouve encore plus quand tu es wedding planner, parce que tu as besoin du bouche à oreille. Quand tu fais bien ton travail, tu as besoin d'avoir des bons retours avant que d'autres personnes te fassent confiance. Tu vois, quand tu as un produit, tu l'as vendu, ça s'est bien passé, tu peux multiplier ça. Mais quand c'est un service, c'est tellement personnel que c'est encore plus compliqué, en tout cas personnellement, je trouve.
Bah, et puis c'est un service aussi que tu vas produire sur la durée. Ce n'est pas un service que tu fais le premier mois, t'as ton solde. Là, c'est des gens qui viennent te voir et le solde de la prestation, j'imagine que tu le reçois bah, soit le jour du mariage ou soit quelques jours après, ce qui fait que tu as pu travailler souvent des mois sur un projet de mariage. Et il faut avoir aussi les reins solides, il faut l'anticiper. Parce que...
En général, c'est un an et demi, voire deux ans avant. Donc, on a aussi le temps de construire avec les mariés une relation vraiment de confiance et à la fin du jour J, c'est quand il n'y a pas le Covid, hein, on s'embrasse et on se dit « Oh là là, merci, c'était super » ou « J'ai adoré travailler avec vous » et c'est vraiment toute cet amour qu'on partage le jour J qui fait que voilà, c'est le meilleur des paiements, en fait. Parce qu'à la fin, tu les vois heureux, ils sont sur la piste de danse, entourés de leurs proches, et ils adorent ce qu'ils sont en train de vivre, et ça, voilà, ça n'a pas de prix.
Bon, ben on va finir sur ces très belles notes d'optimisme, et on va te souhaiter le meilleur pour ton activité et puis tout plein de mariages éco-responsables à suivre.
Eh ben, merci à toi.
En tout cas, j'étais ravi de te recevoir. On te souhaite encore une fois tout le meilleur et je te dis à une prochaine.
Merci, à bientôt.
Et à bientôt.
C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, aidez-nous à faire connaître le podcast en le partageant autour de vous et en nous mettant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de vous laisser, n'oubliez pas que si vous êtes wedding planner et que vous voulez développer votre activité, foncez vous inscrire gratuitement sur planners.fr. Ciao et à très vite pour un prochain épisode.